Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode avec Marc Aulagnier qui va nous parler du SDR. Alors Marc, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que les contributeurs Nos Limites Sécu aujourd'hui sont Eric Fraissinet.
Bonsoir.
Hervé Schauer.
Bonjour à tous.
Nicolas Ruff.
Hello.
Et moi-même, Johan Hulloa. Donc Marc, merci beaucoup de participer à cet épisode. Donc le SDR ou les SDR ou la SDR, d'ailleurs, comment est-ce qu'on doit dire?
Bah, habituellement, on dit c'est le SDR parce que c'est un américanisme, mais théoriquement, il faudrait dire la SDR, puisque SDR, ça veut dire Software Defined Radio, la radio logicielle. Radio, c'est féminin, donc on va essayer de dire la SDR.
Alors qu'est-ce que c'est?
Alors, qu'est-ce que c'est? Les plus gâteux d'entre nous se souviennent des WinModem, qui était une réponse de Microsoft à l'origine, au constructeur de modem, qui consistait à éliminer du modem tout ce qui était démodulation. En fait, tout ce qui coûtait cher dans un modem, la démodulation, les chipsets un peu spécialisés, Bell 202, MNP4, etc. Ils ont décidé de virer tout ça, de faire une interface téléphonique minimaliste, deux condensateurs, un transformateur, et tout envoyer par le bus du PC et demander à la CPU de traiter ça. Et en fait, toute la partie analyse de signal, traitement du signal, décodage, pas déchiffrement, hein, décodage, était faite par la CPU, par l'ordinateur.
Marc,
c'est la même chose. On écoute la radio avec une interface très simple et c'est une CPU qui fait tout le travail de démodulation.
Marc, nous avons des auditeurs nés avec le numérique. Peut-être
oui.
Il faut leur rappeler que la vie était analogique avant, d'où l'utilité du modem pour faire passer des données sur une ligne téléphonique.
Et la vie, toujours aujourd'hui.
La vie n'est qu'analogique, elle n'est pas plus numérique aujourd'hui qu'elle n'était autrefois. Le numérique ne fait jamais que transposer l'analogique. Une onde radio restera éternellement analogique, même si on essaye d'en numériser le contenu. Ce qui passe sur des fils téléphoniques, ça reste de l'analogique, même si c'est des crachotis ADSL, il y a quelque part nécessairement un passage par l'analogique. Non, ce qui est intéressant surtout, c'est pas tellement cette transition numérique-analogique, c'est le fait, en fait, qu'on traite par logiciel des choses complexes qui étaient jusqu'à présent effectuées avec des jeux de composants ou des électroniques très compliquées. Il fallait une diode de détection pour démoduler de la modulation d'amplitude, il fallait un démodulateur Foster stylé pour démoduler de la FM, enfin, j'en passe et des meilleurs. Hein. Quand on arrive sur des systèmes de modulation complexes comme de l'image numérique ou comme du 64 AQPM, de la modulation à quadrant, ce sont des électroniques qui coûtent très cher, qui sont difficiles à développer, qui sont difficiles à régler, etc. Si on résout tout ça par logiciel, bah, ça coûte le temps d'un développeur. Et le jour où on a envie de changer le récepteur, mais dans la seconde même, passer de l'audition d'une radio FM à l'écoute de la télé numérique, bah, il suffit simplement de charger, de booter un bout de soft. Et ça, c'est vraiment ça qui est important dans les SDR. Et ça a des implications infrastructurelles phénoménales.
Alors, justement, oui, quelles sont les implications en matière de sécurité?
Pas seulement en sécurité, mais je pense que la sécurité, c'est un épiphénomène. C'est déjà une implication en termes de d'investissement. Imaginez, par exemple, que vous soyez opérateur télécom, que vous ayez à développer un réseau en 6G ou en 7G 3 quarts. Il vous suffirait, même si vous n'êtes pas sur la même fréquence d'ailleurs, il vous suffirait d'envoyer un bout de code pour transformer la totalité de votre réseau en réseau qui passe de la 4G à la 7G 3 quarts. C'est phénoménal.
C'est déjà ce qui se fait un peu sur 3G 4G là actuellement.
Absolument.
Sur certains. Ouais.
Mais bien entendu, les premiers à utiliser ça ont été les militaires. Ensuite, c'était les grands opérateurs. Mais ça fait 30 ans que les SDR existent. Et derrière les SDR qui sont jamais que la partie, c'est l'atomos, la SDR, c'est l'élément constitutif de base. Mais si vous mettez plusieurs SDR les uns à la suite des autres, vous imaginez bien que ça fait un réseau. Un réseau qui, au même titre que chaque SDR, est capable de changer de protocole, changer de fréquence, changer de type de modulation, quasiment en temps réel, au gré d'un multiplexage de protocoles.
Tu disais que la sécurité est un épiphénomène, mais oui. Tout de même, quand on passe de l'électronique complexe à du logiciel, on sait très bien qu'on passe d'une situation impossible à pirater, usurper, falsifier, à une situation enfantine.
Ah mais c'est évident, Mais je disais que c'était un épiphénomène parce qu'en fin de compte, ce n'est jamais que la transposition de choses qui existent ailleurs. Tu es bien d'accord avec moi. C'est pas, il y aura de toute façon l'équivalent de faille BGP dans des réseaux SDR. C'est tout à fait évident. Mais jusqu'à présent, les SDR en tant qu'outil de détection de failles servent essentiellement à prouver des choses que l'on connaît déjà, c'est-à-dire des erreurs d'intégration, c'est implementation errors. Des trucs complètement stupides, comme des mots de passe par défaut, comme des protocoles, des mécanismes de chiffrement qui ont été intégrés à la diable parce qu'on pense que c'est des produits grand public et que personne n'ira regarder ça. Tu sais, c'est les SDR permettent d'analyser des signaux radio. Qui étaient jusqu'à présent totalement ignorés, parce que les gens qui les intégraient disaient « Oh, c'est de la radio, ce machin-là, c'est impiratable. » C'est exactement, souviens-toi, ce qu'on disait du Wi-Fi avant qu'il s'appelle Wi-Fi, quand il était 802.11, sans même le A. On disait « Ah, mais vous savez, mon cher monsieur, pour être capable d'écouter ce qui se passe avec les sauts de fréquence d'un émetteur Wi-Fi sur 2,4 giga, il faut énormément d'argent, des stations d'écoute phénoménales, colossales, et ça vous coûtera plus cher qu'une Ferrari. » C'est ce qu'on disait à l'époque. On avait une absolue confiance dans la complexité de la technique qui décourageait les pirates. Et on sait très bien que c'est une hérésie, c'est un non-sens.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'on puisse pas pirater l'analogique, parce que quand tu vois ce que fait Travis Goodspeed sur l'injection de données dans des trames radio en utilisant le fait que tu peux leurrer le récepteur en injectant des trames de synchronisation au début, il arrive à rajouter des octets dans une trame Wi-Fi, ce genre de choses. Oui, sur le Wi-Fi, je suis d'accord que les gens n'ont pas réalisé que les cartes pourraient facilement passer en mode monitor. Par contre, sur le Bluetooth, il me semble que ça reste assez compliqué à pirater. Enfin, il y a quelques trucs illégaux qu'il est possible de faire en utilisant des firmware modifiés qui ne sont pas censés être disponibles si tu n'achètes pas le logiciel de l'éditeur, mais ça reste assez compliqué de suivre les sauts de fréquence du Bluetooth actuellement.
Oui, oui. Alors, il y a un truc... l'analogique a toujours été piratable. De toute façon, déjà, l'analogique a toujours été dosable. Je crois que c'est une chose évidente. Il y a pas... La couche de transport en elle-même est particulièrement fragile. Au niveau des attaques, les SDR offrent quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Je vais revenir un peu comme dans le fonctionnement des SDR. En gros, c'est notre interface simplifiée qui est traitée par une CPU. La CPU elle-même, elle ne fait qu'une seule chose. Elle applique, après décimation du signal, une opération mathématique. On sait par exemple que la démodulation de la modulation d'amplitude, c'est l'hypoténuse de deux signaux décalés mis en quadrature. En fait, c'est un même signal avec un léger décalage dans le temps. On va pas rentrer dans ce genre de détails, mais chaque type de modulation, c'est une opération mathématique. On peut décoder, j'ai pas dit déchiffrer, attention, hein. On est bien d'accord, le déchiffrement c'est autre chose. Mais on peut décoder quasiment n'importe quoi à partir du moment où on a réussi à appliquer la bonne approche mathématique sur un signal. Donne-moi n'importe quoi, je te décode n'importe quoi si j'ai le bon matheux à côté de moi. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on peut aussi faire l'opération inverse, puisqu'une opération mathématique est toujours bijective. Sauf peut-être en quantique. Et encore, même en quantique, ça doit pouvoir l'être. Il faudrait demander ça à Renaud. Mais ce qui veut dire que si je réussis à comprendre un mécanisme de modulation, même s'il n'est pas déclaré officiellement, même si c'est un protocole complètement chevelu, je suis capable de, si je réussis à casser le système, à décoder le système, je suis capable de faire du spoofing. Je suis capable d'injecter des informations sur un réseau sur lequel je n'avais jusqu'à présent aucune documentation. Ce qui est intéressant dans les SDR, c'est que ça marche dans les deux sens. Faire ça en analogique, c'était quand même vachement plus compliqué. On était quand même assez limité et on faisait pratiquement que des replay attaques. Tandis que là, on réussit à analyser complètement un protocole.
Est-ce que je peux te poser des questions sur le matériel? Aujourd'hui, dans une radio numérique SDR typique, c'est quel type de composant? Tu parles d'une CPU, justement, c'est quel type de composant avec quel type d'architecture?
Bah, il suffit d'un CPU et d'une antenne, c'est tout?
Non, oui, mais qu'est-ce qu'on a en pratique?
Non, c'est plus compliqué que ça. En pratique, de toute façon, il faut déjà... Il y a une caractéristique, le facteur déterminant des SDR, c'est leur capacité d'analyser des signaux à très large bande. Et pour ce faire, il faut nécessairement des FPGA. On fait pas ça avec des CPU, avec des CPU classiques. On fait déjà un pré-traitement avec des FPGA, et ensuite on envoie ça vers des CPU qui sont beaucoup plus classiques. Ça peut être de l'Intel ou des trucs dans ce genre-là. Et le gros du traitement de démodulation s'effectue avec n'importe quel logiciel. Enfin, les logiciels sont adaptés pour.
Mais tu peux expliquer les FPGA pour ceux qui connaissent moins bien?
Alors, les FPGA, comment dire ça? Dire simplement, ça ne va pas être facile. Les FPGA, ce sont des circuits, comment dirais-je, ce sont des circuits programmables, en gros. Ce sont des réseaux de portes dont l'association se fait simplement en interconnectant ces portes par du simple logiciel.
En fait, c'est comme une breadboard, pour ceux qui connaissent, ces petites plaques blanches où tu mets tes composants, sauf qu'au lieu de mettre des fils à la main, c'est un logiciel qui décide de connecter les pins entre elles.
Très exactement ça, ouais.
Au lieu de passer des heures à enlever tes câbles et à les remettre, tu recompiles simplement ton design et hop, ton circuit est recablé exactement comme tu veux.
Et on peut faire pratiquement n'importe quel circuit de traitement, justement, analogique. Alors, on s'en sert dans les SDR, on s'en sert essentiellement pour éliminer les informations non importantes et n'en retirer que les informations importantes, les opérations de décimation, afin d'être capable d'appliquer des filtres et de l'analyse de signal, du pré-traitement de signal, sur de très larges bandes. Imaginons que je veuille écouter un émetteur militaire, parce que je suis un méchant Obama et que c'est vachement à la mode ces temps-ci. Non, c'est pas de l'humour. comment je vais procéder? Je vais déjà faire une analyse du bilan d'un spectre de fréquences. Parce que les militaires adorent les gîtes de fréquences. C'est pas comme des émetteurs radio broadcast qui restent sur une seule fréquence. On a déjà ça en Wi-Fi. Hein. On a déjà une forme d'étalement de spectre. Un militaire émet avec des émetteurs à gigs de fréquence qui peuvent s'étaler sur plusieurs dizaines de mégahertz. Il faut donc déjà que je fasse un pré-traitement pour savoir quelle est la largeur et sur quelle largeur cet émetteur est né. Ensuite, il va falloir que je trouve quel est l'algorithme qui conditionne le fait que l'émetteur passe de 10 mégahertz à 44 mégahertz, il revient à 32 mégahertz, et puis, etc. Ça, je ne peux le faire qu'avec un FPGA. Une CPU n'est pas assez puissante, n'est pas assez rapide pour faire ce genre de travail.
Même si tu imaginais d'enregistrer le signal et de le rejouer tranquillement à ton rythme?
À ce moment-là, oui et non. Le problème, c'est que un émetteur militaire travaille dans un réseau. Ce n'est pas un émetteur qu'on va essayer de capter. En fait, c'est un réseau d'émetteurs.
Ouais, donc comme des conversations dans une foule.
Exactement. Et à ce moment-là, le problème de l'enregistrement pour restitution, pour analyse et restitution devient relativement compliqué, parce que quelquefois les informations sont parcellaires.
Et pourquoi les sauts de fréquence ne sont pas issus de calculs cryptographiques et auquel cas, si tu n'as pas la clé secrète, tu n'as aucune chance d'écouter?
Mais ils le sont avec Bluetooth.
Ils le sont. Ils le sont, bien entendu. Bien entendu qu'ils le sont, heureusement. Regarde un émetteur. Mais il y a des moyens d'obtenir ces clés. Il y a des moyens excessivement techniques. Par exemple, l'armée israélienne, il y a moins de 4 ans, s'est fait piquer ses clés cryptographiques avec une régularité et avec une constance absolument extraordinaire. Bon, elle faisait 88, 50, 88, la clé de déchiffrement, et elle était capable de ramener toutes les clés de chiffrement qui étaient communiquées au poste frontière. Une grande histoire d'amour. Donc, même ce que n'arrive pas à faire un mathématicien, on y arrivera par des moyens de renseignement autres. Et ça n'a rien à voir avec les SDR. On sait simplement qu'il y a des SDR qui sont capables de faire certaines choses, ils ne sont pas capables de tout faire. Maintenant, je voudrais revenir un peu sur l'usage du SDR en réseau. là encore, il va y avoir des problèmes de sécurité qui sont intrinsèques au SDR. Il y a 25 ans à peu près, il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Mitola qui a inventé la notion de réseau cognitif. Alors, suivant les constructeurs, on appelle ça réseau cognitif, réseau auto-adaptatif, réseau reconfigurable de fin à fin. Ça, c'est plutôt de bout en bout, c'est plutôt l'appellation européenne. En fait, ce sont des réseaux dont le protocole peut changer instantanément. J'ai besoin de Bluetooth pour faire une liaison Paris-Vladivostok. Je vais être en Bluetooth pendant les quelques millisecondes nécessaires à ma liaison. C'est-à-dire que ça a un avantage, ça me permet d'avoir la même couche de transport et donc de ne pas avoir de rupture, par exemple, dans mes protocoles de chiffrement. C'est très embêtant d'avoir des grammaires d'équivalence de transcodage de protocole quand on passe, par exemple, d'un TCP/IP à un X25, d'un X25 à je ne sais trop quoi d'autre. Très rapidement, on arrive à avoir des failles de sécurité chaque fois qu'on a un saut protocolaire. Avec l'ISDR, on est capable d'assurer une unicité de protocole de bout en bout. Mais on peut faire des choses beaucoup plus subtiles. On peut y réussir à fabriquer des réseaux qui ne sont ni entendus ni captés par d'autres réseaux tout en utilisant les mêmes fréquences. Pour l'instant, il n'y a que les militaires qui le font. Mais je pense que très rapidement, les opérateurs vont s'y mettre parce que le spectre électromagnétique est quelque chose de très cher et de plus en plus surexploité.
Comment ça marche, ça ?
Comment ça marche ? C'est relativement compliqué. Imagine que tu aies un réseau d'émetteurs répartis dans toute la France. Un émetteur principal à Marseille et puis des émetteurs, on va dire, esclaves ou assimilés. À Brest, à Paris, à Grenoble, à Lyon, peu importe. Comment va fonctionner le réseau ? Eh bien, l'émetteur maître va d'abord demander à tous ses esclaves de faire un bilan du spectre électromagnétique de leur côté. En disant, qu'est-ce que tu écoutes ? Et non seulement d'un point de vue spectral, mais aussi d'un point de vue temporel. Il y a une analyse temps fréquence qui va se faire en disant, ben là, j'ai tel émetteur, je ne sais pas, par exemple, de l'hôpital du coin, j'ai l'émetteur du poste de police du coin, j'ai trois émetteurs Wi-Fi sur telle et telle fréquence, etc. Ensuite, dans le temps, ces émetteurs ont telle périodicité d'émission, parce qu'aucun émetteur dans le domaine numérique, enfin, entre guillemets, n'émet constamment. Il l'émet avec des multiplexages temporels, et ce multiplexage temporel, il n'est pas absolument constant. Et une fois que l'émetteur principal aura en quelque sorte cette cartographie de temps fréquence, il sera capable de faire une analyse prédictive des bandes de fréquences, des créneaux temporels et fréquentiels pendant lesquels et sur lesquels il va pouvoir émettre. Vous imaginez un peu le boulot mathématique que c'est. Actuellement, des gens comme, bien entendu, comme Thales, comme Motorola, la plupart des grands des SDR se battent essentiellement sur des notions mathématiques plus que sur des notions purement électroniques ou de traitement de signal. Pour eux, ce qui est important, c'est l'établissement de ces réseaux.
Et pour être concret, on pourrait imaginer que sur la bande FM, il y ait des signaux en parallèle.
Ah, complètement, mais pas seulement sur la bande FM. C'est pas la bande FM.
Non, mais c'était juste pour donner un exemple qui parle aux gens.
Oui, tu pourrais très bien. Mais la bande FM, c'est très facile parce que les écarts entre stations sont énormes. Il y a de la place. Ouais. Mais tu peux imaginer ça dans un système par exemple sur des fréquences Wi-Fi. Ce sont des émetteurs qui ont des largeurs de bande beaucoup plus importantes. Qu'un simple émetteur récepteur Wi-Fi. Mais tu peux arriver à optimiser complètement un spectre électromagnétique, voire même à établir des communications sur les fréquences, imagine que tu sois militaire, sur les fréquences propres de ton ennemi, c'est-à-dire échapper à tout brouillage. Si ton adversaire essaye de te brouiller, il te perturbera toi-même, il se perturbera lui-même.
Et c'est aussi ce qui va nous permettre d'améliorer la capacité des réseaux GSM futurs. Hein.
Colossalement, bien entendu. Cette analyse prédictive temps fréquence des grands réseaux d'opérateurs, c'est l'avenir. C'est le réseau cognitif, c'est-à-dire le réseau de SDR, c'est une certitude dans 5 ans. J'ai envie de faire un sort à ce RTL SDR. Je pense que les gens d'Osmocom ont réalisé un hack absolument superbe et ont fait quelque chose de capital d'un point de vue sociologique dans le monde du hacking. Ils ont ouvert les yeux à tous les gens qui font de l'analyse du reverse, etc., sur la fragilité de certains équipements. Et je pense qu'on va beaucoup... comme on dit dans les tontons flingueurs, on se prépare des lendemains difficiles, des réveils pénibles et des nervous breakdowns. Avec l'Internet des objets, je pense qu'il ne va plus y avoir une seule conne quelque part qui va pas avoir au moins une dizaine de talks sur comment j'ai piraté tel ou tel Internet des objets. Donc, de ce côté-là, les gens du groupe Osmocom ont fait œuvre de salubrité. Mais il ne faudrait pas commettre l'erreur de croire que la SDR, c'est ça. Ça, c'est un tout petit aspect de la SDR. Et c'est d'ailleurs probablement le plus pauvre et le plus restrictif. Qu'est-ce qu'on reçoit avec une SDR de ce type? Quasiment rien. Enfin, on va de la bande 28 MHz à 1 giga 7, avec une dynamique qui fait péniblement 80 dB. Ça fait rigoler n'importe quelle personne qui commence à utiliser des SDR sérieux. Quand je parle de SDR sérieux, je ne parle pas de l'USRP. Je parle de choses comme l'Hermès, je parle de choses comme les petits jouets que fabrique Thales ou autres. Là, on commence à avoir des dynamiques qui sont de l'ordre de 130 dB ou 140 dB. Là, oui, on a une capacité de récupération de signal excessivement faible et de pouvoir réaliser des communications à très très longue distance, et bien entendu, dans les deux sens, bien entendu, et d'avoir donc des traitements de signaux qui peuvent se situer à la limite du niveau de bruit. Et on est en train de titiller les dernières limites du théorème de Shannon. On arrive à faire des transmissions qui ne s'entendent quasiment pas, qui sont vraiment dans le bruit. On les décode avec des algorithmes de convolution excessivement complexes, un peu comme les trucs du SETI qui cherchent des extraterrestres dans le bruit des étoiles. Ce sont les mêmes algorithmes exactement. Les SDR servent aussi à ça. Il y a une énorme différence entre une clé DVB-T et un SDR de milieu moyen ou haut de gamme. Ce qui nous intéresse d'un point de vue sécurité, c'est la sécurité des futurs réseaux SDR d'opérateurs, donc de ces SDR-là en particulier, plus que la sécurité ou les problèmes de sécurité liés à des SDR à faible dynamique. C'est un très bon outil de hacking, mais ce n'est pas un bon SDR.
Oui, mais globalement, la plupart des gens ne sont pas non plus suffisamment experts en traitement du signal pour pouvoir faire des trucs très puissants. Ce qu'ils veulent, c'est simplement un truc pas cher, qui puisse faire une démo à un client en prenant trois bouts de code sur Internet.
C'est ça, c'est du FUD.
Ouais.
Ouais, c'est vendre une mariée, c'est vendre une mariée qui est trop belle, mais c'est comme les gens qui font de l'analyse de l'analyse périmétrique de spectre électromagnétique avec un analyseur de spectre parce que ça en met plein la vue au client. Mais avec quelle dynamique, c'est smoké.
C'est pas du fun quand t'as réussi à ouvrir la voiture ou la porte de garage de ton voisin, quoi. Je veux dire, pour une démo client, ça suffit largement. De toute façon, faut bien voir que derrière, la sécurité, elle est entre les mains des gens qui conçoivent les systèmes, les protocoles, les implémentations.
Bien entendu. Mais ça, c'est l'autre aspect. C'est l'aspect bénéfique de la clé SDR. C'est faire ouvrir les yeux aux gens en leur montrant qu'il y a des problèmes de sécurité, même à très faible niveau, même sans avoir des équipements monstrueux. Mais il faut aussi se dire que coup de théâtre qu'est le hacking de la clé SDR cache quand même tous les appareils excessivement performants qui eux peuvent faire considérablement plus de mal ou de bien.
Et donc dans les trucs pas trop chers et facilement abordables, tu recommandes quoi?
À l'heure actuelle, le meilleur des SDR reste abordable pour des civils, hein, c'est-à-dire j'élimine absolument tous les appareils professionnels haut de gamme. Ça reste quand même le Hermès, qui est commercialisé par Anan, et c'est quand même un machin qui coûte dans les 1 500 dollars à peu près. L'autre solution consiste à se fabriquer soi-même. Alors ça demande beaucoup de travail, mais on peut avoir des niveaux de qualité qui sont du même calibre.
Oui, mais finalement, l'électronique n'est rien là-dedans. Parce que derrière, ce qui fait la différence, c'est la qualité du logiciel. Et pour avoir un peu joué avec les trucs au moment où c'était sorti, les gens qui font ça, c'est peut-être des très bons électroniciens, mais c'est clairement pas des informaticiens. Pour arriver à faire tourner le logiciel, il faut que tu aies telle version Linux avec telle version librairie que tu trouves plus que sur un miroir chinois parce que le projet a jamais migré de SourceForge, etc. Enfin, le problème de ces trucs-là, c'est que t'achètes une board ou tu la fabriques toi-même et 6 mois après, en fait, t'arrives plus à faire tourner les interfaces parce que le logiciel est pas mis à jour, parce qu'il y a une nouvelle version, etc.
Ah, c'est ça, mais oui, actuellement, il y a un projet qui est assez amusant. Pas avec un truc qui a beaucoup de dynamique, d'ailleurs. Ça reste un de ces machins pour hackers, pas pour personnes qui cherchent à faire de la performance radio. C'est Hermes Light, c'est fait par Steve Einal. D'ailleurs, il a un Google Group assez actif. Il s'agit d'un émetteur-récepteur SDR qui utilise un seul composant, un circuit d'analog device. Qui est assez performant. Et la première chose qu'il a fait, c'est de s'entourer d'une communauté de développeurs. Et le jour où je passe sous un camion, qu'est-ce que mon projet va faire? Et c'est effectivement quelque chose de très important. J'ai vu énormément de projets disparaître. Tu signais des Chinois. Malheureusement, moi j'ai des développements qui sont partis d'un développement britannique, John Melton, qui est un développement absolument extraordinaire, dérivé de GNU Radio. Le gars a arrêté de le développer. Effectivement, ça pose de gros problèmes. Il a fallu qu'on reprenne tout le développement de A à Z. Donc on s'est forqué et ainsi de suite. Le jour où les forkers en auront marre de développer ça, effectivement, il faudra continuer à redévelopper. C'est excessivement pénible. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense que des interfaces comme GNU Radio, même si elles ne sont pas optimisées en diable, nous permettent d'avoir des outils qui ont une certaine permanence dans le temps. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez rassurant. Maintenant, quant à l'aspect, quasi collatéral, peu important de la partie électronique, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a énormément de différences entre un mélangeur. La première chose qui est critique dans un récepteur, SDR ou non d'ailleurs, c'est les présélecteurs, ce sont les filtrages d'entrée et le premier étage de mélange. Les mélanges se font de façon numérique avec des convertisseurs analogiques numériques et la précision de ces convertisseurs fait quasiment toute la différence, ainsi que le bruit de phase de ces convertisseurs. L'électronique, à ce stade-là, a énormément d'importance. C'est justement ce qui fait qui marque et qui différencie une KDBBT d'entrée de gamme et un récepteur du gabarit d'un ANAN ou Hermes avec des convertisseurs AN 16 bits, c'est quasi de la norme militaire.
Bah, il y a quand même un projet, par exemple, qui à la limite du SDR, mais qui est encore bien maintenu, bien actif, c'est le Proxmark.
Oui.
Alors, lui, il s'intéresse qu'au badge, mais il y a encore des mises à jour de firmware, du logiciel qui tourne, etc.
C'est intéressant, c'est amusant que tu cites Proxmark. Je voyais, dès le début, quand je me suis intéressé au SDR, je voyais plutôt une espèce d'objet miraculeux qui m'aurait permis de m'affranchir de toutes ces versions plus ou moins dédiées d'analyse, d'attaque, de forensique, etc. C'est une sorte de fait-tout de l'analyse de signal. C'est plus ça qui m'intéresse qu'effectivement des outils plus verticalisés. Ce qui n'enlève rien à leur qualité, bien entendu.
Est-ce qu'il y a derrière un intérêt, est-ce que ça va se démocratiser comme l'imprimante 3D, des choses comme ça, ou est-ce que ça va passer de mode?
Ah non, ça peut pas passer de mode.
Non, mais je veux dire...
C'est l'analogique qui va disparaître, c'est ça le problème.
Oui, mais...
On va en trouver de partout.
Le fait que tu aies des composants de plus en plus complexes dans les téléphones portables, c'est une chose, mais est-ce que demain, n'importe quel jouet vendu en grande surface aura un convertisseur que tu pourras trafiquer Enfin, tu vois, est-ce que c'est destiné finalement à être utilisé par le grand public Ou est-ce que c'est un truc qui restera de toute façon réservé aux experts qui conçoivent les systèmes?
Les deux, mon adjudant. Vraiment les deux. Il y a nécessairement, dans le domaine de la communication grand public, un besoin pressant de SDR pas cher à très large diffusion, complètement aussi fermé que des huîtres. Or, la clé RTL SDR était fermée comme une huître. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur les clauses de divulgation imposées aux OEM sur le chipset de cette clé. C'est hallucinant. C'est un truc fermé de chez fermé. Ce qui rend d'autant plus admirable d'ailleurs le reverse de Smocom. Et il y aura toujours des gens qui réussiront à faire des reverse de ces appareils. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il y a encore des gens, qui travaillent de manière purement bénévole sur des SDR qui ne sont pas des jouets, qui ne sont plus des jouets, et qui continueront à développer. Le développement de l'Hermès, qui est un développement radioamateur du TAPR, mais c'est pas nécessairement un truc destiné aux radioamateurs, hein, c'est un truc ouvert à tout le monde. Bien entendu, si tu aimais, il te faudra une licence, hein, ou alors ça risque de te coûter cher. Mais le SDR lui-même, en tant que récepteur, est probablement l'un des meilleurs qui soit à l'heure actuelle. Il est achetable dans le commerce de façon tout à fait ouverte. Il est open source, open hardware. Il est multiplateforme d'un point de vue logiciel. Il est totalement compatible avec Moon Radio. Oui, il y a encore des gens qui font ça. Je vais faire de la publicité pour un Français. Je vais faire de la publicité pour Youssef Twill. Ce gars a fait l'un des softs qui est le plus utilisé par les amateurs de SDR dans le monde. Ça tourne sous Windows. Je ne vais pas entendre quelqu'un dire Burk derrière tout ça, parce que c'est un très beau soft. Il l'a porté d'ailleurs sous Unix, mais il ne veut pas que ce soit diffusé. Ce truc s'appelle SDR Sharp, le soft s'appelle SDR Sharp. Lui-même a développé un excellent récepteur, il ne fait pas encore émetteur, mais un excellent récepteur qui s'appelle AirSpy, et comparé à un truc comme BladeRF, ça tient largement la route en termes de qualité de réception. Bon, bien entendu, c'est limité également à 80 dB, mais il a un processeur ARM quad-core à l'intérieur de sa petite clé, qui permet de faire une grande partie du pré-traitement de l'information, ce qui permet de pouvoir voir sur un PC avec... il faut quand même une USB, il faut quand même de l'USB 3, mais qui est capable d'afficher sur un waterfall plus de 20 MHz de bande passante. On voit d'un seul coup 20 MHz de spectre. En termes d'analyse de signal, c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal.
C'est le truc, son truc SDR Sharp, c'est écrit en .NET, non?
C'est écrit en .NET, absolument.
Oui, je l'ai utilisé ce truc-là.
Et lui-même, et son récepteur, là, AirSpy, c'est de la conception 100% française. Il le fabrique en Chine pour avoir des coûts réduits, mais il a un processus de test, de contrôle qualité qui est assez poussé, et les specs de son récepteur sont plus qu'honorables. Et puis zut, c'est un Français, quoi.
Est-ce que tu vois des nouvelles évolutions, des nouvelles technologies? Parce qu'au-delà du principe de base, est-ce qu'il y a des sauts encore à franchir dans ces domaines-là?
Ah oui. Il y a des sauts à franchir tant dans le domaine de la gestion et de la création des infrastructures que dans le domaine de la sécurité des infrastructures. Là, je pense plus particulièrement au réseau cognitif. La SDR est une chose, l'association de SDR dans des réseaux capables de s'adapter automatiquement à différents plans de fréquence, différents types de modulation, c'est quelque chose d'excessivement complexe, donc avec excessivement de failles potentielles. De toute façon, c'est bien simple, hein, chaque fois qu'il y a un machin qui transforme un bidule dans un truc, c'est-à-dire on appelle ça gateway, on appelle ça, quel que soit le nom qu'on lui donne, il y a une probabilité, une potentialité de faille de sécurité ou de rupture de protocole qui va occasionner une faille de sécurité. Là, de ce côté-là, il y a un travail phénoménal à faire et il y a de nouveaux terrains de développement et de découvertes à faire, tant dans le domaine des mathématiques que des domaines purement physiques, radio. Ça, oui, je sais même pas, j'imagine même pas ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Mais ça va être sacrément passionnant. Ça l'est déjà actuellement, sacrément passionnant.
Et est-ce que, juste pour être très concret, on parlait d'Internet des objets tout à l'heure, est-ce que sur des petits objets, a priori avec peu de puissance, on arrivera à avoir des communications à peu près sécurisées?
Non.
C'est pas un problème de puissance, c'est un problème de batterie.
Oui,
non.
Enfin.
C'est pas seulement. j'ai paraphrasé quelqu'un dont vous avez peut-être déjà entendu, la sécurité est un échec.
Ah bon?
Non, en fait, il faut pas confondre SDR et Internet des objets. Ce sont deux choses radicalement différentes. Qu'est-ce qui se passe dans l'Internet des objets? Je donnerai pas de nom parce que je vais me fâcher avec personne. Mais enfin, vous avez 3-4 acteurs qui ont inventé des protocoles qui se terminent tous plus ou moins par A, qui sont ni plus ni moins qu'un moyen de gagner du pognon avec des réseaux de type puissance, de type mesh ou assimilés. Je vous assure qu'il y a strictement rien de SDR là-dedans. L'Internet des objets est lié à la fiabilité ou non-fiabilité de ces réseaux. Les SDR, quant à eux, permettent à n'importe qui de jeter un coup d'œil sur les dialogues radio qui s'effectuent entre les différents objets et éventuellement de découvrir des failles. Mais il ne s'agit en aucun cas de réseau logiciel, de réseau cognitif, de réseau évolutif. Ce sont des trucs complètement figés au même titre que 802.1, etc., avec les couches qu'on peut leur rajouter, 802.1x, etc. Je ne veux pas dire du mal en particulier de ces réseaux, mais ils commettent les mêmes actes, donc a priori les mêmes erreurs, que les réseaux traditionnels, puisque ce sont eux-mêmes des réseaux traditionnels.
Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer des objets de petite taille, moins d'une pièce de monnaie, qui emporte tout ce qu'il faudrait pour communiquer avec de la radio logicielle et qu'on puisse mettre à jour dynamiquement, etc.
C'est paradoxal, c'est la question d'un militaire à un civil qui va répondre « Oui, mais regardez du côté des militaires. » C'est exactement ce qui se fait.
En fait, il en a déjà eu d'implanté dans son corps.
Mais je pense que les systèmes de capteurs, parachutés en terrain hostile, les réseaux de mines antipersonnelles, tout ça répond déjà à ce cahier des charges. Bon, c'est peut-être pas très drôle pour l'avenir du genre humain, mais techniquement, oui, ça existe déjà.
Alors, donc ça va basculer dans le civil un jour?
Indiscutablement, bien entendu, il faut l'espérer. Je pense que ça va mettre du temps parce que c'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème d'investissement, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de monopole, c'est un problème d'opérateur. Mmh. Il faudrait qu'il y ait quelque part un opérateur, à tout hasard un opérateur historique ou une association d'opérateurs ayant pignon sur rue, et en dire « nous allons créer un réseau reposant sur telle technologie ». Si possible, sur quelque chose de normalisé, ça tombe bien, il y a un projet européen qui s'appelle End-to-End Reconfiguration Network. Enfin, ce truc a déjà bénéficié de fantastiques subsides de la CE. Il y a des choses qui sont exploitables. Non, mais il y a eu des recherches, avec des universitaires qui ont fait des choses, mais qui sont absolument passionnantes. On peut en extraire des réseaux commerciaux exploitables qui seraient parfaitement, qui pourrait constituer le backbone de réseau d'Internet des objets sans qu'il puisse y avoir d'ailleurs, et c'est ça qui serait intéressant, sans qu'il puisse y avoir d'ailleurs de compromission possible, ou du moins de compromission possible irréversible. Il ne pourrait plus y avoir de compromission possible irréversible puisque c'est un réseau évolutif. Donc, on serait capable de patcher un réseau. À l'heure actuelle, si jamais je découvre un bug dans le réseau, je ne sais pas, de mon opérateur téléphonique, je vais avoir beaucoup de mal à le patcher moi-même.
C'est juste au passage, pour que ce soit clair, l'émetteur récepteur Wi-Fi de mon ordinateur portable, il est en radio logicielle ou il est tout pré-câblé?
Je connais pas ton ordinateur, mais il y a de très fortes chances que ce soit de la logique câblée, que ce soit des chipsets qui soient déjà plus ou moins verticalisés. En fait, c'est le même, c'est probablement le même chipset qui doit s'occuper de Bluetooth et de Wi-Fi, du moins sur la partie radio, puisque ce sont les mêmes bandes de fréquences. Les modulateurs doivent être différents, pour l'instant, il n'y a pas encore de radio logicielle pour des choses dont les coûts de fabrication sont encore excessivement faibles et où le delta de gain sur des quantités telles que celles d'une mise en production d'ordinateur ne serait pas assez significatif pour se plonger dans le développement d'une radio logicielle. En revanche, la question peut très bien se poser pour du GSM, pour la téléphonie mobile. Là, oui, bien entendu. On commence
à plusieurs centaines d'euros dans un appareil. Donc,
Oui, et puis en plus, les volumes, l'échelle de production est beaucoup plus importante que celle d'un ordinateur. Et là, oui, on commence à trouver du SDR.
D'accord. Donc, une des idées, c'est qu'on fera peut-être un saut sécuritaire si on arrive à mettre en œuvre les technologies qui permettent de fabriquer pour quelques euros ou quelques dizaines de centimes d'euros, ce genre de composants.
A priori oui, mais c'est toujours le même problème. Hein. Security is a failure. C'est le jour où je verrai France Télécom dire « Oh, on va vous pousser un correctif », là franchement, je vous offre le champagne.
Mais pourquoi pas, ce que je veux dire. Ça a du sens.
Ça a du sens d'un point de vue sécurité, certainement. Je n'imagine, dans l'état actuel des choses, je n'imagine pas un opérateur dire « je vais m'occuper de la sanitisation de mon propre réseau ».
Est-ce que c'est un schéma où l'opérateur devrait le faire, ou alors est-ce que c'est quelque chose où un certain nombre d'acteurs, grâce à des infrastructures mises en place par l'opérateur, pourraient déployer chacun leur mise à jour, leur...
Je pense que les deux sont possibles à partir du moment où les relations de confiance sont établies, ça c'est évident. Mm-hmm.
J'imagine plus, moi, personnellement, de multiples réseaux supportés par la même infrastructure ou des partages d'infrastructures.
Exactement, comme ça s'est fait au début d'Internet, absolument. Mm-hmm. Chacun avait son administration, il était hors de question que quelqu'un d'autre y touche. C'est techniquement tout à fait envisageable. Ça devient politiquement tout à fait envisageable maintenant que la notion de monopole n'existe plus. Maintenant, est-ce que financièrement c'est quelque chose d'envisageable? C'est pas absolument certain quand on voit les masses d'argent qui sont mises en jeu et les luttes d'influence auxquelles se livrent les différents opérateurs. C'est un problème qui n'est plus du tout du ressort des SDR. Le SDR arrive en disant: moi, je suis capable de faire ça, c'est-à-dire je suis capable de faire du réseau reconfigurable, je suis capable de faire un réseau évolutif, je suis capable de vous envoyer aussi bien du morse que de la télé numérique, ça je sais faire, ou de la 4 ou 5G ou que sais-je encore, mais trouver une infrastructure avec une ligne directrice politique, un cap financier et une réalité infrastructurelle cohérente, ça, c'est encore de la science-fiction à mon humble avis.
Et pour remplacer un réseau local, c'est-à-dire se dire on se débarrasse du cuivre dans un bâtiment, il y a des choses qui existent, il y a des projets, donc avec un niveau de sécurité suffisant.
Je pense pas que le problème soit du ressort de SDR, SDR or not SDR, mais c'est un problème purement radio. Il faudrait trouver des ensembles, des grappes de systèmes de transmission qui soient capables de se faire en quelque sorte aux différentes configurations. Je ne sais pas si vous imaginez la difficulté technique, par exemple, qu'ont eu les entreprises qui ont mis au point un système tel que la carte Navigo. Je ne parle pas d'un point de vue chiffrement, protection RFID, etc. Je parle simplement lecture du badge, réception, dans un cadre électromagnétique excessivement perturbé. C'est pas des gamins, les gars. J'ai vu les résultats d'analyse. Je suis béat d'admiration devant les solutions techniques qui ont été mises en œuvre. Maintenant,
ça marche vachement bien en plus.
Et ça marche vachement bien, mais ça a pas marché du premier coup, ça je peux vous le garantir. Imaginez, alors qu'il s'agit d'une transmission à faible débit et de courte proximité, imaginez étendre ça en multimédia au sens propre du terme, c'est-à-dire être capable d'envoyer aussi bien de la data que de la voix, que tous les types de services qu'on peut imaginer transmis par actuellement par de la fibre ou du câble. Transmis par radio à l'intérieur d'un bâtiment, c'est beaucoup plus complexe. Et est-ce que c'est rentable? En revanche, sur de grandes distances, pour du réseau MAN, pour du réseau WAN, indiscutablement, il y aura de plus en plus de réseaux radio. Pourquoi? Parce que l'infrastructure physique est nettement moins coûteuse qu'une infrastructure câblée cuivre avec des tranchées, avec des pelleteuses, etc.
Y compris pour traverser les océans, enfin.
Oui, y compris pour traverser les océans, il suffit simplement de lancer un satellite.
Ouais.
C'est pas cher, c'est pas si cher que ça un satellite. Et les satellites, surtout à orbite moyenne et orbite basse, bon, les orbites basses ont un problème, c'est leur durée de vie qui est assez courte. Mais orbite intermédiaire, Léo et Méo, résolvent d'ores et déjà pas mal de questions en termes de couverture internationale. L'autre avantage du satellite, c'est qu'on est maître de l'uplink et pratiquement donc de tout le lien de bout en bout quand on a choisi son propre protocole. Les câbles transméditerranéens, transocéaniques, etc., on a même vu que la NSA était quand même capable d'y mettre des bretelles. De toute façon, il y aura toujours un câble quelque part, il y aura toujours des capacités, il y aura toujours des probabilités de bretelles. Ça, c'est mon côté parano.
En conclusion, Marc, comment est-ce que tu aimerais conclure?
Comment est-ce que j'aimerais conclure?
Ouais.
J'aimerais que tout informaticien au sens large du terme et au sens noble du terme, toute personne qui s'intéresse au système d'information, commence à se passionner pour le domaine des ondes électromagnétiques. Qu'il oublie un peu le côté parano des hacks DEFCON sur l'analyse tempeste et le cassage de telle ou telle clé de chiffrement en écoutant les à grand renfort de boucles électromagnétiques, et qu'il s'intéresse plus à la fuite d'informations d'objets de proximité. L'Internet des objets, il est déjà chez nous. J'aimerais aussi que chaque personne au sein d'une SSI puisse avoir le temps nécessaire à investir personnellement quelque argent, enfin avec les deniers de l'entreprise si possible, ça serait quand même pas mal, autour de quelques-uns de ces équipements. Ça ouvrirait deux possibilités. D'une part, ça ferait très certainement baisser les prix des équipements si toutes les boîtes commençaient à s'y intéresser. Il n'y a qu'à voir le prix d'un firewall ou d'un antivirus maintenant. Ça permettrait surtout de renforcer un peu la volonté de certains équipementiers de faire un peu plus attention à leur intégration. Les conférences sécurité ont fait énormément en termes d'évangélisation dans le domaine des équipements sécurité. Maintenant, il faudrait peut-être essayer de décaler un peu le débat et dire il faut que ce sentiment, cette responsabilisation dépasse un peu. Et ça ne peut venir que par les gens du métier, que par les gens du sérail, par les RSSI qui sont capables de dire par leurs travaux personnels, même s'ils ne sont pas des grands reverseurs, même s'ils ne sont pas des gens qui sont dans l'analyse forensique, etc. Il ne s'agit pas de faire du travail de chercheur. Il s'agit de dire, moi je suis dans telle entreprise, mon spectre électromagnétique c'est ça, et je me demande ce que c'est que cette émission qui, tous les jour à telle heure, au moment où les ouvriers ou les employés de mon labo de recherche foutent le camp, se met à scanner de telle fréquence à telle fréquence. Il y a des choses qui sont, alors quelquefois c'est quelque chose de bénin, mais au moins ça permet aux responsables informatiques de dire, je connais non seulement mon parc de machines, je connais aussi mon parc électromagnétique. Ça serait capital.
Il faudrait pas faire la même chose sur le câble électrique?
Mais bien entendu, mais le câble électrique, c'est un rayonnement. Ben bien entendu. Attention, Hervé, lorsque je parle de spectre électromagnétique, je vais de 0 à 1 Hz à à peu près, on peut considérer qu'on peut arrêter d'être parano à 10 ou 12 gigas.
Donc, est-ce qu'on peut dire que s'intéresser au SDR pour un RSSI, c'est peut-être gagner en visibilité sur certains risques existants, mais qui ne sont pas connus pour le moment dans son entreprise ?
Complètement. Au même titre qu'il est toujours bénéfique pour quelqu'un dans une équipe SSI d'avoir son Kali Linux sous le coude gauche, même s'il ne l'utilise pas tous les jours.
Bon, et bien on espère que cet épisode vous aura intéressé. On vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Au revoir. Bye bye.
Au revoir. Au revoir.